Kiosque Magazine.
Bonjour à tous et bienvenue sur le canal, sur les ondes du Canal M en ce beau, hein? 8 avril pluvieux.
8 avril, ah! Mon Dieu, non, Seigneur, ben non, non, non. Il n'est pas retardé à peu près ce matin.
Mais ça semble au mois d'avril. Je pense que c'est le juin, hein?
Il fait chaud.
On va s'entendre là-dessus. Alors, nous sommes heureux de vous accueillir.
Oui, oui.
Pour vous
oui.
proposer le qui est la culture et la société. Nous, c'est Henri Mathieu. Mathieu Tessier.
Lui-même.
Oui, lui-même. Et à ma gauche, Franceline Nuvian, que
oui,
nous saluons.
Bonjour.
Bonjour, Franceline. À ma droite, Serge Hamelin. Bonjour, Serge.
Bonjour, Roger Roy, à ma
bon,
gauche.
Bon, alors, nous sommes là tout prêts à vous proposer des textes que nous sommes allés lire dans des magazines. Nous espérons que ça va vous intéresser comme sujet. Serge,
oui.
Franceline plutôt.
Bien, alors moi j'ai lu dans La Presse Plus deux articles, C'est quoi au juste une famille? Et le deuxième petit article est Comment fait-on les bébés?
Ah oui.
Et puis ma deuxième intervention sera sur les soins au masculin pour vous messieurs, prendre soin de votre visage.
Oh.
Et donc, c'est un article écrit par Jacqueline Simoneau dans Le Bel Âge.
Oh, que j'ai hâte d'entendre ça.
Vous allez voir.
Ah. Alors, Serge?
Moi, je vais vous parler de maison, d'immobilier
oui.
et d'achat de maison et tout ça. Ah. Dans la revue Protégez-vous.
Bon, oui, ben là, c'est ça. C'est du sérieux, ça aussi. Là.
Très.
Moi, je vous parle de notre époque qui est entichée de nourriture, de la bouffe, hein?
Notre époque.
La gastronomie,
oui. Vous dites notre époque?
Notre époque.
Ah.
Cette période.
Oui, oui.
À quel sens faut-il donner à ce phénomène? L'engouement pour la nourriture.
Excellent.
C'est un débat que nous propose...
J'ai très hâte de vous entendre.
Que nous propose la
l'eau à la bouche.
Actualité. Pas l'actualité. La revue Relations. Mais pour tout de suite, je suis dans deux textes d'éditions différentes de l'actualité. Le seul lien entre les deux, c'est qu'ils sont écrits, ces textes, par des femmes. La mère d'un enfant autiste se bat pour obtenir une école plus grande. Mais d'abord, les femmes sont-elles de si piètres négociatrices? C'est un texte qui a été signé par Noémie Mercier.
Ah, ouais?
Oui. On parle d'équité salariale.
Ah.
Si l'équité salariale tarde à se concrétiser, ce serait notamment parce que les femmes ne jouent pas assez dur à la table de négociation.
Non, non.
Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? 4,19 $ l'heure, c'est ce que les professionnels québécoises du secteur privé gagnent de moins en moyenne que les hommes du même niveau de compétence, a révélé récemment l'Institut de la statistique du Québec. À raison de 35 heures semaine, cela se traduit par un fossé de 7,625 $ par année. De tels écarts, des décennies après l'entrée massive des femmes dans les universités et sur le marché du travail, se joueraient notamment au moment des négociations, mesdames. Vous vous contentez trop souvent de ce qu'on vous offre, semble-t-il. Les femmes sont 4 fois moins susceptibles de négocier leur premier salaire que les hommes aussi qualifiés qu'elles, selon des chiffres relayés par Linda Babcock et Sarah Lachevé, dans leur livre « Women Don't Ask ». Et lorsqu'elles négocient, elles obtiennent en moyenne 30 % de moins que les hommes. Pourtant, ce déficit à la table de négociation n'est ni inévitable ni irréversible, concluent des psychologues américains et allemands qui ont publié une vaste synthèse sur la question dans la revue Psychological Bulletin en novembre dernier. En fonction du contexte, non seulement les femmes peuvent rattraper leur retard, mais elles s'avèrent même parfois plus habiles négociatrices que les hommes. L'équipe a déniché 51 études déjà menées partout dans le monde, aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Inde, en Chine notamment. En réanalysant l'ensemble des données pour un total de près de 11 000 participants, les chercheurs ont confirmé qu'en moyenne, les filles soutirent moins d'argent que les gars lors d'un marchandage. Mais ils ont aussi découvert que cet écart s'amenuise dans certaines circonstances, lesquelles, premièrement, lorsqu'elles ont de la pratique, c'est-à-dire... si elles ont négocié au moins une fois dans leur vie ou suivi une formation sur ce sujet. Deuxième cas, lorsqu'elles connaissent la fourchette de négociation, soit les sommes minimales et maximales qu'elles peuvent espérer obtenir. Pardon. Et troisièmement, lorsqu'elles négocient non pas pour elles-mêmes, mais au nom d'une autre personne. Mieux, lorsque toutes ces conditions sont réunies, les femmes obtiennent de meilleurs résultats que l'autre sexe. C'est dire que les femmes peuvent renverser la vapeur en se préparant, en s'exerçant à l'art de marchander et en s'informant sur la rémunération d'emplois équivalents, par exemple. Mais pourquoi sentirent-elles mieux lorsqu'elles défendent les intérêts d'un tiers? C'est là que ça se corse. Sortir gagnant d'une négociation exige des qualités, un certain culot, la capacité de se mettre en valeur, l'appât du gain, qui sont traditionnellement valorisées chez les hommes, mais encore mal vues chez les femmes. Des études récentes le confirment, les candidates qui réclament un salaire plus élevé sont d'emblée moins appréciées. On a moins envie de les embaucher, alors que les hommes qui se comportent exactement de la même manière ne sont pas pénalisés. Parfois, ça coûte bel et bien quelque chose de demander. Mais lorsque les femmes mettent cette audace au service d'une autre personne, les préjugés défavorables à leur égard s'envolent. Quand elles négocient pour quelqu'un d'autre, résument les auteurs, le même comportement affirmé peut être interprété comme un souci du bien-être d'autrui qui correspond davantage au rôle féminin traditionnel. On accepte volontiers qu'elles jouent dur, autrement dit, à condition que ce ne soit pas pour leur bénéfice personnel. C'est assez révélateur. Voilà qui leur fait une belle jambe. Ce n'est pas demain la veille que les travailleuses négocieront pour leurs voisines de bureau. Par Noémie Mercier, c'est dans l'actualité du 15 avril. Les femmes sont-elles de si piètres négociatrices? Allons maintenant dans lire des extraits du papier « Une mère contre les bureaucrates ». C'est dans l'actualité du 15 juin et la journaliste Catherine Dubé rapporte les propos de Vania Aguiar. Voici ce que lui a raconté Vania Aguiar. Elle dit « Mon fils Henri-Louis a 19 ans. Il est atteint de déficience intellectuelle. Il a l'âge mental d'un enfant de 18 mois et le corps d'un grand Jack de 6 pieds 1 pouce. » Il a appris à marcher, mais il ne parle pas à part quelques mots. Il fréquente l'école secondaire Irénée Lucier, un établissement du quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, qui accueille des élèves de 12 à 21 ans, tous déficients intellectuels ou autistes. Évidemment, ce n'est pas une école où les jeunes apprennent la grammaire ou les mathématiques, c'est un lieu où ils apprennent l'autonomie. Le problème, c'est que cet établissement déborde. Le nombre de jeunes qui reçoivent un diagnostic d'autisme est en forte hausse. On s'explique mal cette augmentation, mais une chose est sûre, il n'y a plus de place dans l'école. Certains élèves ont des problèmes de comportement. Quand ils sont trop nombreux dans la même classe, ils ne peuvent plus fonctionner. Certains deviennent violents. L'école Irénée-Lucier est obligée d'accepter ses élèves, car c'est le seul établissement du genre à la Commission scolaire de Montréal. Il y a déjà plusieurs années, nous avons dû ouvrir une annexe pour accueillir les nouveaux élèves. Je dis « nous ». Parce que je suis, c'est Vania Aguiar qui parle, je suis présidente du conseil d'établissement. Cette annexe, nous aurions aimé qu'elle soit tout près, mais elle est située dans un autre quartier, Tétroville, à 7 km de la maison mère. Alors, depuis de nombreuses années, on dit qu'il leur faut un nouveau bâtiment, mais le gouvernement fait la sourde oreille. Et on n'arrive pas, on avait réussi presque à convaincre le ministre Yves Bolduc, qui était ministre de l'Éducation alors, qui avait promis de les aider, mais le lendemain... Il a démissionné et il faut recommencer à nouveau. C'est comme dans le mythe de Sisyphe. Demander de l'argent pour construire une nouvelle école pour ces gens. Une mère contre les bureaucrates par Catherine Dubé. C'est dans l'actualité du mois du 15 juin.
Alors maintenant, c'est quoi au juste une famille? C'est un texte écrit par Sylvia Galipeau dans La Presse Plus du 16 mai 2015. C'est quoi au juste une famille? Un couple, un clan, des amis, des parents? C'est quoi vraiment une famille? Du temps passé ensemble, mais avec qui exactement? Quatre courts documentaires diffusés sur les ondes de MATV illustrent à quel point la réponse est multiple et surtout évolutive. Entre le portrait du couple d'amis qui décide de devenir parent sans être amoureux, parce que être parent, c'est être en relation, comme des amis, des collègues ou des chargés de projet, disent-ils, et la famille, adepte de la simplicité volontaire et de l'école à la maison, l'antithèse du parent absent, en passant par le couple qui vit sous le même toit que la belle-mère, qu'est-ce que je fais ici ? Les cas proposés sont inusités, c'est le moins qu'on puisse dire. Aussi éclatés soient-ils, ces portraits de famille, brossés par de jeunes réalisateurs, ont surtout le mérite de nous faire réfléchir. Nous avons interrogé France Paradis, chroniqueuse et auteure de plusieurs ouvrages sur la famille, laquelle participe également à l'émission, pour savoir ce qu'elle retenait de ces portraits éclatés de la famille. Quatre choses à retenir sur la famille. La première, la famille est en quête de repères. Depuis au moins 25 ans, dit-elle, on cherche ce qu'il y a d'essentiel dans la famille. La famille est-elle un projet personnel, comme l'affirme ce couple d'amis ? Peut-on être des parents sans être des amoureux ? Qu'est-ce qui est existentiel dans la famille, au fond ? Je ne dis pas qu'on trouve des réponses, mais qu'on cherche, nuance France Paradis. C'est clair et fondamental à quel point on cherche de nouveaux repères de définition de la famille. Deuxième point, la famille multiple. Il y a beaucoup de façons de vivre les liens de la famille et de les nourrir. On a vraiment quitté le carcan de la famille nucléaire, souligne France Paradis. En témoignent les familles reconstituées, adoptées, qui vivent en ville ou à la campagne, de parents en couple amoureux ou pas, comme on le voit. Ce dernier reportage du couple d'amis a d'ailleurs suscité beaucoup de questionnements et les juges de l'émission ont très hâte de savoir où ils en seront dans un an, une fois le bébé né. Voilà. Il faut dire que les amis sont plus présents que jamais dans certaines familles. On voit que c'est rendu qu'on fait des familles avec nos amis. Il n'y a pas de modèle unique pour la famille. Ça ne veut pas dire que tout le monde a raison, mais tout le monde se cherche, poursuit France Paradis. À ce titre, il est intéressant de voir comment tous les parents, dans chaque reportage, insistent sur le fait qu'ils ne détiennent pas la vérité avec un grand V. Ce n'est pas la façon de faire, mais moi, je suis bien là-dedans, souligne le père à la maison, adepte de la simplicité volontaire. Ce n'est pas pour tout le monde, ça dépend de ta relation avec tes parents, ajoute le père de 36 ans, qui vit chez sa mère, avec femme et enfant. Et enfin, il faut beaucoup de courage. Ça me frappe à quel point cela prend du courage pour être cohérent dans les choix qu'on fait, souligne aussi France Paradis. Faire des choix différents et s'assumer, c'est difficile. Et particulièrement en famille, parce que c'est fondamental. Voilà, donc c'était l'article écrit par Sylvia Galipo dans La Presse Plus du 16 mai. Alors maintenant, à la suite du texte sur la famille, voici une question qui la concerne. Comment fait-on les bébés ? Aucun parent n'y échappe. Un beau jour, ou peut-être à l'heure du coucher, arrive la question « Comment on fait les bébés ?» Question piège, pas du tout. Dire que le papa met une graine dans le ventre de la maman peut suffire, pour un temps. Après, ça se corse. Un autre beau jour, après avoir mûrement réfléchi, votre petit reviendra avec la vraie question « Comment le papa met la graine dans le ventre de la maman ?»
C'est la logique
même. Eh oui, inutile d'étoffer la métaphore potagère, rendu là, l'enfant veut savoir. Sans doute même vérifier des hypothèses. Alors là, il faut se lancer. Tous les parents ne sont pas aussi à l'aise d'aborder la sexualité avec les enfants. Or, même ceux qui envisagent la chose avec plus de sérénité peuvent avoir besoin d'un coup de pouce, car la réponse est plus délicate que la question. Utiliser un livre peut être une bonne méthode, convient la sexologue Caroline Salvas. Mais le plus important, selon elle, est de se fier à notre enfant. Rien ne sert de devancer leurs questions. Chacun est différent dans sa découverte de la sexualité à ces âges-là, c'est-à-dire entre 4 et 8 ans environ. Et il n'y a pas d'urgence à parler de la conception, dit-elle. Souvent, les questions viennent d'elles-mêmes. Caroline Salvas conseille de vérifier d'abord les connaissances de l'enfant avant de répondre. Parfois, ils en savent plus qu'on pense, constate-t-elle. Répondre aux questions ne signifie pas forcément parler de la mécanique de l'érection. Ce qu'un adulte sait de la sexualité, ce n'est pas nécessairement ce qu'un enfant veut savoir ou a besoin de savoir, dit encore la sexologue, ajoutant qu'il faut se faire confiance comme parent. Avec les préadolescents, il peut être utile de devancer les questions, suggère par contre Caroline Salvas. De parler de consentement sexuel, d'infection transmissible sexuellement ou de grossesse non désirée, précise-t-elle, tout en faisant attention à ne pas donner une vision négative de la sexualité. Il faut aussi parler de la notion d'intimité, de tendresse et de plaisir. Voilà, c'était donc écrit par Alexandre Vigneault dans La Presse Plus du 1er juin 2015. Comment fait-on les bébés ?
Laissez-moi pleurer si j'ai du chagrin. Laissez-moi me relever. Laissez-moi vous quitter au petit matin. Mais laissez-moi vous aimer. Je veux toute la vie de ma vie. Je ne veux pas l'emprisonner. Je la veux toute, pas juste une goutte. Je veux toute la vie de ma vie. Je veux toute la vie de ma vie. Je ne veux pas.
C'était la regrettée Angèle Arsenault.
Oh, quelle entraîneuse!
Oui.
Ah, c'est entraînant, cette chanson.
Oui, c'est beau, oui, on ne peut pas y résister.
Ah, puis la voix à la fin, comme ça, bon. Bon, alors, vous avez acheté une maison, vous avez un problème, défendez votre territoire. Vous avez eu recours au service de professionnels au moment de l'achat ou de la rénovation de votre propriété, mais l'un d'eux a mal rempli son mandat. Faites valoir vos droits. Ouais. Alors, pour réclamer un dédommagement ou porter plainte contre un professionnel qui a commis une faute, vous devez respecter les procédures recommandées selon un processus. Voilà. Inspecteur en bâtiment.
Oui.
Bon. Lors d'une inspection pré-achat, il examine les différentes composantes de la maison, puis note les déficiences et les problèmes suspectés à partir d'indices visibles. Ce que je vous dis présentement, c'est tiré du protégez-vous. Ouais. Alors, si vous avez des problèmes là avec ce genre de problème, procurez-vous le protégez-vous du mois de mai. Tous les détails sont là. Moi, je n'aurai pas le temps de tout vous dire, mais je vais vous mettre la puce à l'oreille. Donc, s'il y a de la moisissure apparente, il doit l'écrire dans son rapport. Par contre, si rien ne permet de détecter la présence de moisissure cachée dans les murs, par exemple, l'inspecteur ne peut en être tenu responsable. En cas de problème, vous pouvez porter plainte à l'Association des inspecteurs en bâtiment du Québec, AIBQ. Si l'inspecteur en est membre, c'est une adhésion facultative, dans son cas. Alors, portez plainte auprès d'un ordre professionnel. Si votre inspecteur en est membre en tant que technologue, architecte, ingénieur, évaluateur, etc., etc. Ensuite, réclamez un dédommagement. Plusieurs inspecteurs en bâtiment, mais pas tous, possèdent une assurance responsabilité pour les fautes professionnelles. S'ils sont membres d'une association ou d'un ordre professionnel, ils doivent se conformer aux exigences de couverture minimale prescrites. Par exemple, cette couverture est de 2 millions de dollars par inspection pour les membres de l'AIBQ et de 1 million maximum de 1 demi-million par réclamation pour les membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Vous avez un problème avec l'entrepreneur de construction. Alors, les éléments non inscrits au contrat, comme les imprévus, sont souvent source de mésententes. Veillez à tout écrire le plus précisément possible dans le contrat ou dans une annexe. Les abandons de chantier et les vols de dépôts sont aussi fréquents, selon Marie-Claude Masson, porte-parole de la Régie du bâtiment du Québec, RBQ, en cas de problème. Portez plainte à la RBQ, à la Corporation des maîtres électriciens du Québec, CMEQ, ou à la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, CMMTQ, selon le cas. Portez plainte à l'Office de la protection du consommateur, OPC, en cas de non-respect de contrat. Ultimement, l'entrepreneur pourrait recevoir une amende. Nous n'intervenons toutefois pas quant à la qualité des travaux et aux compétences de l'entrepreneur, précise Jean-Jacques Préau, porte-parole de l'OPC au moment de la rédaction de cet article. Réclamez un dédommagement. Vous pouvez réclamer une somme directement à l'entrepreneur ou à son assureur. Si l'entrepreneur refuse de payer et n'est pas assuré, c'est facultatif. Votre meilleure stratégie consiste à obtenir un jugement contre lui afin d'être dédommagé à même son cautionnement obligatoire déposé auprès de la RBQ, de la CMQ ou de la CMMTQ. Notez toutefois que le total des réclamations ne peut dépasser 20 000 $ par an pour un entrepreneur général ou 10 000 $ pour un entrepreneur spécialisé comme un spécialiste en portes et fenêtres. Faire valoir la garantie de rénovation et si vous en aviez acheté une auprès d'un entrepreneur certifié Réno-Maître, vous pourriez obtenir la réparation des malfaçons ainsi que le remboursement de votre acompte et le parachèvement des travaux jusqu'à concurrence de 25 % de la valeur du contrat maximum. Si vous avez un problème avec l'évaluateur maintenant, il donne, lui, une opinion objective sur la valeur marchande de la résidence après l'avoir visitée et comparée avec d'autres propriétés semblables vendues récemment, entre autres choses. Et les fautes les plus courantes, c'est quoi? Avoir choisi de mauvais éléments de comparaison, ne pas avoir visité la résidence adéquatement et avoir rendu un rapport incomplet, note Céline Villot, secrétaire générale de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec, OEAQ. Et certains évaluateurs sont aussi inspecteurs en bâtiment. Et en cas de problème, portez plainte à l'OEAQ, réclamez un dédommagement. Les évaluateurs sont couverts par le Fonds d'assurance et de la responsabilité professionnelle. Couverture minimale, 1 million de dollars par an. Comme il nous reste juste une minute, si vous avez un problème avec votre courtier immobilier ou hypothécaire, en cas de problème, portez plainte à l'OACIQ.
Okay.
Ou l'OACIQ. Tant que le courtier... Ouais. Qu'est-ce que c'est, ça, l'OACIQ? Oh là là, c'est quelque chose. Tant pour le courtier immobilier que le courtier hypothécaire. Réclamez un dédommagement et réclamez un dédommagement. OK, ça va. Pour l'architecte, maintenant. L'architecte peut notamment faire les plans de votre maison. Et en cas de problème, vous pouvez porter plainte à l'Ordre des architectes du Québec. Ça, c'est moins compliqué. Réclamer un dédommagement. L'arpenteur géomètre, lui. Hein?
C'est un autre professionnel. Donc, il y a un autre professionnel.
Et alors, l'arpenteur géomètre, et en cas de problème, portez plainte à l'OAGQ. Et le notaire, en cas de problème, portez plainte à la CNQ.
La Chambre des notaires.
Oh, que c'est bien dit.
Oui, c'est ça.
Alors, voilà. Alors, vous avez ici un ensemble de quoi porter plainte. Merci.
Alors maintenant, quelques brèves. Êtes-vous prêt pour le vin chinois? Accompagnerez-vous bientôt vos viandes grillées et vos fromages au lait cru d'un bon rouge chinois? Pas sûr. Mais 3, c'est le nombre de vins chinois qui ont déjà été offerts à la Société des alcools du Québec. Ils sont présentement épuisés. Un porte-parole de la SAQ souligne que la société d'État regarde en ce moment la possibilité d'en offrir davantage.
Ah bon? Ouais. Croyez-vous qu'il y a un lien entre les gaz à effet de serre et la gourgane?
La gourgane.
La gourgane, oui. Depuis quelques mois, les vaches laitières du lac Saint-Jean mangent des gourganes. Pour les producteurs laitiers, ce nouveau régime compte plusieurs avantages. Cultivée localement, la gourgane coûte moins cher que le soya. Elle contient plus de protéines que le maïs. Et les vaches qui en consomment donnent autant ou plus de lait. Mais les vertus de la gourgane sont plus grandes encore. Selon des études que mène actuellement le centre de recherche AgriNova à Alma, une alimentation à base de gourgane diminuerait la quantité de gaz à effet de serre émis par les vaches. Les tanins présents dans cette légumineuse réduiraient le méthane produit naturellement pendant la rumination. En un an, une seule vache émet autant de gaz à effet de serre qu'une voiture qui parcourt 20 000 km. Les résultats des études suscitent beaucoup d'intérêt chez les producteurs laitiers. Non seulement leurs vaches pourraient donner plus de lait, mais grâce à la diminution des gaz à effet de serre, ils pourront peut-être un jour vendre des crédits de carbone, imaginez.
Hein, vive la gourgane, hein? Alors, fibre 9 en 1. Dans quelques années, vous pourrez acheter des vêtements capables de prévenir eux-mêmes les secours en cas de malaise. Des chercheurs de l'Université Laval ont mis au point une fibre intelligente qui capte vos informations biomédicales, rythme cardiaque, température, etc., et peut les transmettre par Wi-Fi. Cette fibre de la grosseur d'un cheveu qui se tisse avec de la laine et du coton est en instance de brevet. Ne reste qu'à la rendre résistante aux détergents.
Alors, 3500, c'est le nombre d'employés de l'Agence du revenu du Canada qui ont été piégés par un courriel de hameçonnage lors d'un test mené par la direction auprès de 16 000 de ses employés. Ce test fait partie d'une campagne visant à améliorer la protection des dossiers fiscaux des contribuables. L'an dernier, une faille informatique avait donné un accès public à ses serveurs protégés.
Eh bien, dis donc,
oui.
Hein,
oui,
11,56% plus de clients au mois de mai. Hausse moyenne du taux de fréquentation des restaurants québécois avec service aux tables par rapport au mois d'avril. Êtes-vous content de savoir ça, vous?
Vous pouvez rejoindre les animateurs de Kiosque Magazine au numéro sans frais 1-800-361-0635, poste 220. Écrivez-leur à canalm@vuesetvoix.com. Pour plus d'informations sur l'émission, consultez canalm.org. Canal M, pour voir autrement. Un service de Vues et Voix.
Qu'en est-il de la gentrification? Parce que ça aussi, c'est un gros problème.
Le problème qui touche l'ensemble du Québec, c'est l'incapacité de payer.
Font la différence, aujourd'hui à midi et en rappel à 16h, à la télé numérique et sur Canal M.
Marie-Cécile Labrèche. Bonjour Marie-Cécile.
Bonjour.
Là-dessus, mais ça devient pas larmoyant.
J'ai toujours peur de ça, du sentimentalisme. Peut-être c'est pour ça mon côté trash avant.
8 juin, relations, magazines, émissions et sites web de toutes sortes pullulent, prenant parfois les airs d'une nouvelle obsession. Cette surexposition est-elle bénéfique ou accentue-t-elle plutôt notre rapport marchand à l'alimentation, détournant celle-ci de sa fin première? De nourrir, évidemment. Relation a demandé à Geneviève Sicotte, Dali Giroux et Amélie-Anne Maillot d'en débattre. Le titre de l'article, « L'engouement pour la bouffe, quel sens lui donner ?» Geneviève Sicotte, professeure à l'Université Concordia, écrit « Parle-t-on trop de nourriture ?» Comment l'amour de la bonne cuisine, comment comprendre ce phénomène, particulièrement quand ceux qui l'encouragent sont désormais le plus souvent épargnés du souci millénaire de la subsistance? On peut bien y voir une préoccupation de riches, gavés et décadents, qui planifient leur prochain repas alors qu'ils sont encore en train de se curer les dents, avachis autour des restes de leur dernier festin. Ce serait une forme de régression. Et la préoccupation gastronomique peut certes prendre ce visage. Mais elle a un potentiel d'être autre chose. Elle peut nous permettre d'imaginer et de raconter autrement notre expérience au monde. En effet, actuellement, nous sommes habités par le sentiment d'une progressive et irrémédiable distanciation face au concret. Face au concret.
entourée d'écrans, d'interfaces, de dispositifs technologiques qui médiatisent de manière totalement nouvelle notre rapport au monde et aux autres, nous avons le sentiment d'une dépossession. Il importe peu de savoir si cette perte est réelle ou fantasmée, puisque notre imaginaire contemporain ne cesse de la réitérer sur un mode parfois ludique et fasciné, mais souvent inquiet et angoissé. Or, c'est Geneviève Sicotte qui parle. Il me semble qu'une préoccupation alimentaire réfléchie peut répondre à ce sentiment de perte. Valoriser la gastronomie, cela permet de s'immerger dans le concret, de faire parler le corps, son rapport à la matérialité, son inscription dans le règne du vivant, son expérience de la faim et de la satiété. De mieux déployer des sens comme le toucher, l'odorat, le goût, qu'on laisse si peu exister qu'ils en semblent même privés de capacité à se dire. D'entrer en relation avec les gens, ceux qui produisent les aliments et les vendent, ceux avec qui l'on cuisine, ceux avec qui l'on partage un repas. Ces bribes quotidiennes de concrétude peuvent apaiser nos blessures hypermodernes. Et il ne s'agit pas d'un remède régressif, puisqu'il est susceptible de transformer l'expérience que nous faisons de notre corps et de nos relations avec autrui. Ainsi, la préoccupation alimentaire, bien conçue, peut être non pas une fuite, mais un contrepoids à tout le registre du virtuel, un ajout vivant qui provoquera un équilibre inédit. Et Geneviève Sicotte, par ailleurs, souligne les liens qui peuvent unir l'humanité par l'humble biais de l'alimentation. Encore faudrait-il que la volonté politique de réaliser cette fraternité se manifeste plus clairement, écrit-elle. Quant à Dali Giroux et Amélie-Anne Maillet, elles écrivent entre autres ceci. « Pour notre part, nous croyons qu'il y a un problème de fond avec la manière contemporaine de se nourrir. Ce problème relève du fait que notre alimentation n'est pas fondée sur un système qui vise fondamentalement à nourrir les personnes. Plutôt, elle est captive d'un modèle de production qui vise à générer une activité économique, c'est-à-dire des salaires et des profits. Pour l'heure, c'est en effet avec de l'argent que nous mangeons. Sur quel principe un système de production de la nourriture qui viserait d'abord à nourrir les personnes reposerait-il? Premier principe, le partage radical. Comment se fait-il que de plus en plus de gens n'arrivent pas à se nourrir adéquatement dans nos sociétés d'abondance, où l'offre alimentaire n'a jamais été aussi grande? Le bilan fin 2014, FAIM, indique que les banques alimentaires au Québec ont reçu en moyenne 1,6 million de demandes par mois. Un système qui aurait comme visée première de nourrir les personnes s'assurerait que chacun mange à sa faim. Dans ce système, le manque nous apparaîtrait fondamentalement injuste. Le principe de partage radical impliquerait que nous acceptions l'idée que chacun a le droit de jouir d'un accès direct, immédiat et sans condition aux moyens de se nourrir. Deuxième principe, pas de gaspillage. Troisième principe, faire avec ce qu'on a. Comment se fait-il que notre conception de la redécouverte des ressources alimentaires d'un territoire passe par leur appropriation et leur exploitation par quelques individus? Le développement actuel de l'économie régionale ne sert pas d'abord à nourrir les populations locales. Un système qui aurait comme visée de nourrir les personnes ferait en sorte que l'aménagement du territoire soit toujours d'abord conçu en fonction de l'autonomie alimentaire de la population du dit territoire. Alors, on en débat, on en discute, on pourrait en parler assez longtemps. L'engouement pour la bouffe, quel sens lui donner? C'est dans le magazine Relations du mois de juin.
Se le disent, prendre soin de sa peau n'est plus l'apanage des femmes. Les hommes ont compris qu'ils pouvaient à la fois être virils et avoir la peau lisse et douce. Et c'est tant mieux. Alors vivement un coup d'œil sur l'ABC des soins pour vous, messieurs.
Nous sommes toutes oui.
Voilà. Alors selon un sondage réalisé par L'Oréal Paris, 59% des hommes utilisent des produits de soins du visage. De ce nombre, 59%, 85% emploient une crème ou une lotion hydratante. De plus, 83% disent rechercher un produit qui nettoie en profondeur, 63% une préparation raffermissante et 59% une formule anti-rides. C'est dire le chemin parcouru depuis l'époque où le rituel des soins masculins se limitait au lavage du visage à l'eau, puis au rasage. Par la suite est apparue la fréquentation croissante des centres de conditionnement physique et des spas, témoignage certain de l'intérêt des hommes pour leur apparence physique et leur bien-être. De là à ce qu'ils souhaitent également un teint bonne mine, il n'y a qu'un pas facile à franchir. D'autant plus que la plupart des grandes marques de cosmétiques proposent des gammes de soins du visage spécialement conçues pour eux, non sans raison. En effet, l'épiderme des hommes est naturellement plus épais et plus résistant que celui des femmes. Il vieillit donc moins vite, mais quand les rides apparaissent, les sillons se creusent plus rapidement et plus profondément. Il produit également plus de sébum. Résultat, une peau plus grasse et plus sujette aux comédons. Les pores sont également plus dilatés, ce qui permet aux saletés de s'incruster plus facilement. Autre différence, la pilosité, le rasage quotidien élimine une partie du film hydrolipidique, d'où une peau souvent déshydratée, rougie, irritée et fragilisée. Les goûts des hommes diffèrent également de ceux des femmes. Ainsi, ils n'aiment pas s'encombrer d'une multitude de petits pots. Ils recherchent des soins simples, efficaces et rapides d'emploi. C'est pourquoi ils affectionnent les formules 2 en 1. Ils craquent aussi pour les textures fraîches et non grasses, qui ne collent pas au poil et qui pénètrent vite sans laisser de traces. Et ils préfèrent nettement les produits peu ou pas parfumés. Voici donc pour vous, messieurs, un programme de soins adapté aux particularités de votre épiderme ainsi que des produits bien ciblés. Après avoir découvert le confort d'un épiderme souple, lisse et sans tiraillement, vous ne pourrez plus vous en passer. Alors d'abord, nettoyez. Sachez-le, il faut plus que de l'eau pour débarrasser la peau des saletés et du sébum accumulé durant la journée. Quant au savon pour le corps, même s'il laisse la peau du visage propre, il est beaucoup trop agressif pour votre épiderme soumis quotidiennement au feu du rasoir. Investissez plutôt dans un produit nettoyant doux, adapté à votre type de peau. Après nettoyer, il faut exfolier. Il faut bien l'avouer, une peau grasse et des comédons, ce n'est pas plus joli chez les hommes que chez les femmes. Or, votre peau s'encrasse facilement en raison d'une plus grande production de sueur et de sébum et de pores plus profonds qui retiennent les impuretés. D'où l'intérêt d'inclure dans votre programme de soins une exfoliation une ou deux fois par semaine. Le produit exfoliant renferme des microbilles qui aident à éliminer les cellules mortes, déloger les saletés, éclaircir le teint et adoucir la peau, en plus de favoriser le renouvellement cellulaire. C'est l'antidote idéal des teints ternes et asphyxiés. Autre avantage non négligeable, messieurs.
Nous vous écoutons.
Oui,
vous
je vois, que vous, j'entends que vous souriez.
Est-ce que vous prêchez dans le désert?
Non. Et il, donc, je disais...
C'est Jacqueline Simoneau, ça,
oui, qui disait que l'antidote idéal des teintes ternes et asphyxiées, c'est un autre avantage non négligeable, c'est ça que je disais. Il prévient les fameux poils incarnés coincés sous la peau, fréquents au niveau de la barbe, qui causent boutons et rougeurs. Le rasage s'en trouve ainsi facilité. L'exfoliant s'utilise sous la douche, le geste est rapide, efficace et discret. Ensuite, raser. Le moment idéal pour vous raser, c'est après la douche. L'eau chaude assouplit la peau et les poils, ce qui facilite la coupe. Avant le rasage, appliquez une crème, un gel ou une mousse à raser pour aider le passage de la lame, maintenir les poils hydratés et prévenir les coupures et la desquamation de la peau. Faites suivre d'un soin après rasage, mais jetez vite aux oubliettes votre aftershave à base d'alcool, beaucoup trop desséchant et irritant.
Ah ben là, on est d'accord.
Oui, enfin, n'oubliez pas de tailler régulièrement les poils du nez ou des oreilles. Ensuite, hydratez. Si votre épiderme est plutôt épais, il n'en est pas moins sensible. Le passage répété du rasoir le sensibilise et le fragilise jour après jour. De plus, les agressions environnementales, climatiques et autres, pollution, vent, froid, surchauffe des maisons, stress, etc., le déshydratent en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Sans compter que la peau vieillissante a du mal à retenir l'eau, ce qui accélère la déshydratation. Bref, si vous ne devez acheter qu'un seul produit de soin, optez pour un hydratant adapté à votre type de peau. C'est sans contredit le premier geste anti-vieillissement à adopter.
Ah oui ?
Oui, l'hydratant maintient la peau saine, douce, souple et atténue les rides et ridules engendrées par la déshydratation. En prime, il protège des agressions. Hydratez votre visage au moins une fois par jour, idéalement le matin après le rasage. Et si vous allez à l'extérieur pour y pratiquer une activité sportive, étalez plutôt un écran solaire muni d'un indice de protection contre les UVB d'au moins 30 et d'une protection à large spectre contre les UVA. N'oubliez pas votre cou et vos oreilles. Enfin, ralentir les effets du temps. La virilité ne s'exprime plus par un visage marqué de rides. Les hommes ont enfin compris que ces lignes n'ont rien de sexy. Mais plusieurs hésitent encore à utiliser un produit anti-rides. Et pourtant, la majorité des hommes souhaitent néanmoins que leur peau conserve sa fermeté le plus longtemps possible et que les rides retardent leur apparition. Appliquez le produit anti-rides le soir, avant le coucher, car c'est la nuit que la peau s'active et que les ingrédients actifs offrent une action maximale. Alors messieurs, voilà quelques informations pour prendre soin de votre peau. C'est un article qui s'intitulait « Les soins au masculin » écrit par Jacqueline Simoneau dans la revue Le Bel Âge de juin 2015.
59% des hommes qui adhèrent à ça.
Absolument. Oui.
C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Ils s'emparent de vos valeurs sans vous menacer d'une arme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur est un grand seigneur. Il vient chez vous la nuit sans déranger votre sommeil. Il décroche sans bruit le tableau acheté la veille. Puis avant de partir, après ses coupables travaux, il laisse un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Et chaque femme a son âme. Rêve de voir son visage, de l'actrice à la danseuse, à l'épouse la veilleuse. Gentleman cambrioleur a gagné les cœurs. C'est le plus grand des
Cathy Noël.
Cathy?
Oui, elle a écrit dans la revue Protégez-vous.
Non, non, c'est dans l'actualité, Serge.
Dans l'actualité.
Oui, excusez-moi.
Vous avez raison.
C'est
moi de vous apprendre. Mon Dieu.
C'est parce que je voyais l'actualité.
Oui, oui, bon, vous avez de bons yeux, c'est bien. Avec une belle crème hydratante.
Pour votre peau.
Ah, on vous donnerait à peine, à peine. Mais... Alors, spécial immobilier, le grand dossier, heureux les acheteurs. Ben oui. Fini le temps où les propriétaires vendaient leur résidence en 3 jours à un prix plus élevé que celui demandé et où les courtiers n'avaient qu'à se pencher pour ramasser leur commission. Le marché de l'immobilier a basculé au Québec et c'est au tour des acheteurs d'en profiter. Oui, madame. Patrice Groslot, co-fondateur de l'agence McGill Immobilier, se souvient de l'époque où, pour vendre les condos sur plan, il suffisait d'installer une roulotte sur le chantier du futur immeuble et d'y poser une pancarte indiquant « bureau des ventes ». Ceux qui, en plus, apposaient des autocollants promotionnels sur la roulotte étaient des précurseurs, dit le volubile agent immobilier de 37 ans, dont la spécialité est la vente de condominiums neufs pour le compte de promoteurs de la région de Montréal. C'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, un promoteur qui n'aurait pas une maquette 3D dans son bureau de vente et quelques viennoiseries à offrir aux potentiels acheteurs ne serait pas dans la course. Mm-hmm. Beaucoup ont des condos modèles à faire visiter ou des logiciels permettant de faire des visites virtuelles. Dans le haut de gamme, les clients sont parfois accueillis avec sushi et champagne. Oh, on rit plus. Et depuis peu, un nouveau phénomène est apparu. Les promoteurs font des cadeaux aux acheteurs. Mm-hmm. Stationnement intérieur, électroménager, machine à espresso dernier cri, remise en argent. Et en février, Yule, un promoteur de condos de luxe du centre-ville de Montréal offrait à ceux qui achetaient un appartement, comprenant au moins une chambre fermée, un voyage pour deux de 7 jours dans une grande ville d'Europe. Toutes dépenses payées. C'est fin. Hein? Oh. À Saint-Lambert, sur la rive sud, les habitations Harmonie donnent une Vespa en cadeau. Eh oui, et paient les intérêts sur l'emprunt hypothécaire pendant les 6 premiers mois. Hein? Oh hey, c'est une façon de se démarquer, dit Ginette Paquette, présidente de l'entreprise qui construit des condos depuis 1995. On ne vend pas que des appartements, on vend aussi un style de vie, explique-t-elle. Désespérés, les promoteurs, le marché est devenu extrêmement concurrentiel et l'acheteur en profite, confirme Patrice Groslot. Le nombre de nouveaux immeubles de condos a explosé au Québec dans les dernières années. Et les acheteurs ont plus que jamais l'embarras du choix. À Montréal seulement, il s'est construit 12 681 condos depuis 2011, mais en 2014, on comptait 2 641 vendus dans la région métropolitaine, un bond de 40 % par rapport à 2013, du jamais vu depuis 2006, où les invendus avaient atteint un sommet de 3 400 condos. Au centre-ville, il y a actuellement 20 vendeurs pour un acheteur.
Ouf!
C'est nettement supérieur au point d'équilibre qui se trouve normalement à 8 ou 10 vendeurs pour un acheteur, précise Hélène Bégin, économiste principale chez Desjardins, qui juge la situation inquiétante. Selon la Fédération des chambres immobilières du Québec, FCIQ, le prix de 39 % des condos vendus en 2014 a été revu à la baisse dans la région de Montréal. Il faut avoir les reins solides ou un bon coussin, dit Esther Leblanc, courtière indépendante. Elle constate que les délais de vente des condos s'allongent, tant sur le marché du neuf que celui de la revente. Oui, oui, oui. Certains de ses clients cherchent à acheter une maison pour loger la famille qui grossit, mais ils ont du mal à vendre leur condo. C'est le cas de Marie-Hélène Binet, nouvellement maman, qui a acheté une maison individuelle avec son conjoint sans avoir réussi à se départir de son condo à Saint-Henri. Elle a utilisé de l'argent reçu en héritage pour la mise de fonds, mais elle se retrouve aujourd'hui avec 2 emprunts hypothécaires sur les bras. Si nous ne réussissons pas à le vendre, nous allons le louer, même à perte, le temps que le marché reprenne, dit-elle. De manière générale, le prix moyen des propriétés toutes catégories confondues n'a augmenté que de 1,3 % au Québec de 2013 à 2014 et c'est la plus faible croissance observée en 19 ans. Les ventes ont diminué de 1 % et les délais ont continué de s'allonger. Il fallait près de 4 mois en moyenne pour vendre sa maison en 2014, soit 10 jours de plus qu'en 2013. Et ça fait quelques années que le nombre de transactions est moins élevé, constate Hélène Bégin. Cela a eu pour effet de calmer la progression des prix, ce qui est rassurant quand même. Les acheteurs profitent en outre de la faiblesse des taux d'intérêt et quant aux vendeurs, ils doivent être plus flexibles et moins gourmands qu'ils ne l'ont été. Et il y a 3 ou 4 ans, dit Paul Cardinal, directeur du service d'analyse de marché de la FCIQ. Si vous pensez vendre aujourd'hui, n'espérez pas vendre automatiquement plus cher que votre voisin l'a fait il y a 2 ans. Non. Ce conseil vaut aussi pour ceux qui possèdent un plex. En parlant de plex, savez-vous où il y a les moins chers?
Moins chers de plex.
Ouais, les plex les moins chers à Shawinigan, en Mauricie. 100 000 $ pour un plex.
C'est en banlieue un peu.
Le oui, Cap de la... si on travaille à Montréal.
En deuxième position, le Cap de la Madeleine.
Ah ben ouais.
136 500. Pourtant, il y a le Pour des Chapelets là-bas.
Oui.
Alors, ça devrait se vendre plus, mais non. Les gens peut-être font plus Chapelet, je ne sais pas trop. À Trois-Rivières, proche du pont des Chapelets, 147 500. Drummondville, 179 000. Jonquière, 183 000. Au Saguenay, 185 000. Salaberry de Valleyfield, 190 000.
Okay,
à Granby pour un plex, 212 000. Saint-Hyacinthe, 231 000. Et à Saint-Jérôme, 245 000 $.
Nous sommes renseignés.
Oui. Alors, voici une brève. Empester pour écraser. Alors là, on a trouvé la solution, semble-t-il. Des scientifiques israéliens, n'importe qui, ont montré que les fumeurs exposés durant leur sommeil à l'odeur du tabac jumelé avec une effluve répugnante de poisson ou d'œufs pourris réduisent leur consommation de cigarettes d'un tiers durant la semaine suivante. Les deux odeurs doivent être combinées car n'en respirer qu'une seule n'a aucun effet. Et l'exposition est plus efficace la nuit qu'en plein jour, probablement parce que les sujets ne se souviennent de rien au matin. Ah, alors, oui. Le secret, vous mettez du poisson en dessous de votre lit.
Oui. Oui. Bon, alors c'est très pédagogique. Ça fait deux fois que vous nous la dites, celle-là, hein, Serge?
Non.
On va la retenir.
À vous?
Oui.
Mais pas aux auditeurs.
Aux États-Unis, on aura tout vu. Imagerie thermique, ma maison perd sa chaleur. Écoutez ça, là. Après Google Street View, qui a révolutionné la cartographie des villes, une nouvelle entreprise parcourt les rues des villes américaines pour documenter les pertes de chaleur des immeubles.
C'est intéressant, ça.
À l'aide de caméras à infrarouges, SS produit des images thermiques de tous les bâtiments afin de déterminer ceux qui sont mal isolés. Leurs propriétaires pourront ainsi, s'ils le désirent, effectuer des travaux pour réduire leur facture d'énergie. Hein? Alors, l'entreprise offre aussi ses services aux écoles, aux municipalités, aux ministères. Et on dit à des compagnies qui, évidemment, sont en mesure de vous procurer de l'isolation, bien isoler vos maisons. Voici des gens qui sont très mal isolés. Vous pourriez aller les voir et leur vendre vos produits. Ça a l'air que pour l'instant, rien n'indique qu'ils seront offerts hors des États-Unis. Alors, on n'aura pas ces camions-là qui vont venir nous vérifier l'isolation de nos maisons.
Et maintenant, voilà un peu de gastronomie. Autre temps, autre champagne. Les amateurs de champagne du 19e siècle buvaient un nectar plus sucré et moins alcoolisé qu'aujourd'hui, révèle un biochimiste qui a analysé de grands crus, âgés d'environ 170 ans, retrouvés dans une épave au fond de la mer Baltique. Philippe Jandet de l'Université de Reims-Champagne-Ardennes a découvert que le taux d'alcool de ce champagne s'est levé à 9,5% au lieu des 12% actuels et que ce vin était trois fois plus sucré que le demi-sec d'aujourd'hui. Il a aussi noté des concentrations plus élevées de métaux, sans doute dues aux instruments utilisés pendant la fabrication à cette époque. Un œnologue de la maison Veuve Clicquot, hein, le célèbre champagne, d'où provenaient quelques-unes de ces 168 bouteilles retrouvées, a été invité à goûter le précieux liquide. Il a d'abord perçu des arômes évoquant des notes animales, du fromage, des cheveux mouillés, mais ensuite des notes plus suaves de fruits mûrs, de fleurs, d'épices. L'obscurité du fond des mers, la température constante et l'absence de vibrations semblent avoir été des conditions optimales de conservation. Alors, la maison Veuve Clicquot tente maintenant une expérience. Elle a déposé 350 nouvelles bouteilles au fond de la mer Baltique et comparera tous les 3 ans leur maturation à celle des bouteilles conservées en cellier. Et voilà.
Pressé le citron.
Après le champagne.
Mais vous voulez tirer le maximum d'un citron? Allez le déposer au fond de la mer Baltique. Ben non, c'est pas vrai. Chauffez-le de 20 à 30 secondes au micro-ondes à intensité maximale.
Ah, combien? 30 secondes?
La chaleur brise les membranes inférieures du fruit, ce qui facilite l'extraction du jus quand vous le pressez. Profitez-en pour nettoyer votre micro-ondes. Amenez à ébullition un bol d'eau contenant des quartiers de citron ou plusieurs cuillères à soupe de jus. Essuyez ensuite la condensation sur les parois et sentez la fraîcheur.
Ah.
Voici une déclaration maintenant. Nous avons sous nos pieds une terre desséchée, alors que nous devrions avoir 5 pieds de neige. Qui a dit ça? C'est Jerry Brown, qui est gouverneur de Californie. Il vient d'ordonner aux villes de l'État une réduction de 25 % de leur consommation d'eau potable. Il préférerait beaucoup d'avoir de la neige là-bas.
45 %, c'est le pourcentage de travailleurs américains qui n'ont pas pris une seule journée de vacances en 2014.
Médecine personnalisée, on ne veut pas savoir. S'ils étaient porteurs d'une mutation génétique, la majorité des Canadiens souhaiteraient en être informés, mais pas dans tous les cas. Si le gène est associé à une maladie pour laquelle il n'existe aucun traitement, comme l'Alzheimer, ils préfèrent rester dans le noir. Alors, c'était le Kiosque Magazine du 8 juin, je pense que c'est le 8 juin aujourd'hui.
Ouais,
oui, oui. Oui.
Alors, ici, Franceline Neuviard, Serge Hamelin, oui. Roger Roy, en régie, celui qui nous met en onde, Mathieu qui?
Mathieu, dans deux noms.
Bon, et Roger Roy, nous vous disons au revoir et à la prochaine.